Heureusement, je suis arrivé à temps jeudi matin pour écouter Jean-Pierre commenter brièvement les photographies de Zola. J'étais bien content de l'entendre parler des aspects formels de ces photos, aspects que je trouve quelque peu négligés jusqu'à présent, et c'est en effet le sujet principal de ma communication aujourd'hui. Mais n'étant ni zolien ni photographe de formation, je me suis senti obligé de bâtir un cadre théorique avant de me lancer dans les appréciations. C'est avec une grande trépidation que je m'avance sur ce terrain plein de pièges méthodologiques. J'en évoquerai tout à l'heure. Il faudrait dire aussi que, en rédigeant ce texte, je me suis demandé si je n'étais pas en train d'enfoncer des portes déjà ouvertes, dans la mesure où mes auditeurs seraient bien convaincus de la place d'Émile Zola dans l'histoire de la photographie. Néanmoins, je vous fais part de mes recherches dans l'espoir de provoquer une réflexion et je compte sur vous pour m'apporter des précisions ou des corrections par la suite. Je me rappelle très bien de l'exposition des photos d'Émile Zola à la salle municipale du Château d'Eau à Toulouse, qu'avait si soigneusement préparé Jean Dieuzède. J'étais saisi par ces images et je prenais ce saisissement pour du plaisir esthétique. C'était seulement par la suite, en formulant une demande de subvention auprès du ministère des Relations extérieures pour faire circuler cette exposition aux États-Unis, que j'ai commencé à bien réfléchir sur la valeur purement esthétique des photos d'Émile Zola. En effet, d'où venait ce plaisir que j'avais ressenti? Impossible de le séparer d'un référent multiple. Comment ne pas immoler la biographie du photographe géant de la littérature française, auteur engagé, ou les côtés documentaires d'une époque qui fascine, non seulement pour les événements politiques et littéraires, mais aussi pour les développements technologiques, y compris dans le domaine de la photographie. Et enfin, même surtout, quelle part du plaisir ressenti venait de la découverte d'un autre côté de l'auteur naturaliste, insoupçonné par la grande majorité des spectateurs qui, comme moi, ne connaissaient que Zola romancier et Dreyfusard. Or, ce référent multiple complique l'appréciation purement esthétique des photos. Alors, serait-il possible d'inscrire les photos d'Émile Zola dans l'évolution esthétique de la photographie? Il faudrait, pour ce faire, regarder brièvement l'activité photographique de l'époque. Je me limiterai surtout à vous parler d'une œuvre théorique de l'époque qui dégage bien le terrain. Pendant les années 70 et 80 du siècle dernier, il y avait une prolifération d'expositions et de concours de photos et aussi des clubs de photos. Les expositions et concours étaient dominés par des professionnels. C'est eux qui exposaient et surtout c'est eux qui composaient les jurys. Là, de voir des photos tout simplement ressemblantes, on attribuait des prix de plus en plus en fonction des prouesses techniques, effet de trucage, surimpression ou montage, ou bien en fonction d'une ressemblance entre la photo et la peinture. En ce qui concerne ce deuxième groupe, on peut dire au moins qu'il prenait l'art visuel comme modèle et il faisait très attention à la composition de l'image. Le meilleur exemple en France à l'époque est sans doute André Salomon et en Angleterre, Henry Peach Robinson. Déjà en 1859, à propos des portraits de Robinson, Lamartine s'était enthousiasmé en disant « La photographie, et je cite, est plus qu'un art, c'est un phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil. » Fin de citation. Robinson a beaucoup fait pour ouvrir les esprits vers d'autres possibilités pour la photographie, mais sa révolte contre la photographie comme simple transcription de la nature a débouché sur une manipulation de l'image qui allait jusqu'à peindre sur les négatifs et à des mises en scène très élaborées et stéréotypées pour les photos de groupe. On était au stade où la photographie s'était élevée à l'art d'imiter l'art, pour emprunter l'expression de Bourdieu. On exposait les photos dans les plus mauvaises conditions, mal encadrées les unes sur les autres et jusqu'au plafond. La photo était devenue un produit de laboratoire, une curiosité, mais certainement pas un art. Peter Henry Emerson s'est insurgé contre l'état des choses et s'est donné comme mission d'ébranler l'esthétique régnante afin de rendre une spécificité à la photographie pour qu'elle devienne pour qu'elle devienne un art à part entière. Nancy Newhall l'appelle le père de la photographie contemporaine. D'origine américaine, Emerson avait fait ses études en Angleterre, où il était devenu médecin et naturaliste dans le sens premier du terme, c'est-à-dire fin observateur et commentateur de la nature. Par le biais de son intérêt pour la nature et la représentation de la nature, il s'est lancé dans une étude approfondie de l'optique et de l'art, surtout de la peinture. Emerson s'est mis à étudier et à pratiquer avec grande passion la photographie au début des années 80. Il a commencé à écrire des articles pour The Amateur Photographer en 1885. Son premier texte est une critique féroce des expositions de photos, non seulement de la façon dans laquelle on expose et la composition des jurys, mais aussi des techniques et du contenu des photos consacrées par les jurys cette année-là. L'année suivante, Emerson a fait publier un bel album de ses propres photographies, Life and Landscapes in the Norfolk Broads. C'était un grand succès, autant populaire que critique, et qui servira de point de référence pour une œuvre théorique 3 ans plus tard. En 1889, donc, Emerson a publié un livre qui a fait scandale, Naturalistic Photography for Students of the Art. Après une explication détaillée et savante de la perception visuelle et des principes optiques, Emerson brosse une histoire sommaire de la peinture, surtout du point de vue d'une reproduction fidèle du monde physique, tel que l'œil le perçoit. Selon sa terminologie, la peinture ne peut jamais atteindre une parfaite fidélité à la perception réelle parce qu'elle est le fruit de la combinaison de l'homme et de la nature. Elle est donc soit idéaliste, soit impressionniste. C'est la terminologie d'Emerson, je crois, ici. Et je rappelle, tout simplement pour mettre en parallèle un petit peu, quelques passages de Zola. Enfin, tous ces passages viennent de la collection Mayenne, ses commentaires sur l'art, surtout de Manet. Donc voilà, je rappelle la phrase de Zola. Donc, une œuvre d'art n'est jamais que la combinaison d'un homme, élément variable, et de la nature, élément fixe. Mais pour Emerson, le véritable réalisme exige l'impersonnalité, et cela n'est possible que par l'entremise d'une machine, dans l'occurrence, l'appareil photo. Alors, il divise la photographie en 2 catégories. D'abord, le réalisme, la photo-document, caractérisé par une mise au point précise et par l'absence de tout sentiment, illusion ou décoration. Ce n'est que l'enregistrement des faits. Ensuite, il y a ce qu'il appelle la photographie naturaliste, qui est une réflexion plus juste de la nature où la vérité du sentiment, l'illusion de la vérité et la décoration sont de première importance. La photographie réaliste montre ce qu'il appelle une vérité perspective ou mathématique. Le naturalisme, par contre, dévoile une vérité psychologique ou visuelle. Emerson dit que toutes les suggestions pour une photo naturaliste doivent venir de la nature elle-même. Le sujet dans la nature doit frapper l'homme. C'est ainsi qu'il entre en sympathie avec son sujet, mais ensuite l'artiste doit ajouter son intellect. Et l'œuvre naturaliste, donc, est une interprétation. Je cite encore Zola. Ce que je demande à l'artiste, c'est de se livrer lui-même, cœur et chair, c'est d'affirmer hautement en esprit puissant et particulier une nature qui saisisse largement la nature en sa main et la plante tout debout devant nous, telle qu'il la voit. D'être soi, de montrer son cœur à nu, de formuler énergiquement une individualité. Alors, Emerson établit des règles à suivre pour créer une photo naturaliste. D'abord, il faut analyser la nature en fonction des masses et des valeurs relatives des tons. Ce qu'il appelle valeur ton relatif, c'est la différence de la quantité de lumière reçue sur les plans différents des objets quand on les compare l'un à l'autre. Le clair-obscur pour le photographe, dit-il, c'est le ton. Zola avait parlé des rapports des tons, de couleurs et de la loi des valeurs dans un de ses articles sur Manet. Selon Zola, l'artiste, je cite, se laisse guider par ses yeux qui aperçoivent le sujet en larges teintes, se commandant les unes les autres, et il voit par masse. Pour revenir à Emerson, on réussit à établir une juste gamme de tons à travers la mise au point, la lumière et le développement. En ce qui concerne la mise au point, Emerson dit que la vérité la plus proche à la nature, d'un point de vue physiologique, peut être obtenue en rendant l'arrière-fond flou, sans toutefois détruire la structure visuelle. Et l'objet principal de la photo doit être net ou même légèrement flou. Je cite Emerson. Rien dans la nature n'a de contours nets, mais tout est vu contre quelque chose d'autre et les contours fondent doucement d'une chose à l'autre, parfois de manière si subtile que l'on peut à peine distinguer où l'un finit et l'autre commence. C'est dans ce mélange de décision et d'indécision, dans ce perdu retrouvé, que gît le charme et le mystère de la nature. Ses détracteurs se sont beaucoup moqués de lui pour une formulation si vague, mais Emerson s'est justifié du point de vue visuel en disant que l'œil, dès qu'il fixe un objet, ne voit plus net sur les autres plans. La photo naturaliste, donc, est une photo où les différents plans focaux sont arrangés de telle manière à donner une apparence vraie à la nature. Autrement dit, la photographie naturaliste est plutôt une question de la façon de regarder, comme l'œil qui met en valeur un point, un sujet dans le champ visuel. Alors c'est au photographe de bien étudier son sujet. Emerson se sert de la phrase française d'entrer dans la peau même de son sujet et d'attendre le moment où les conditions atmosphériques sont favorables, le moment artistique. Ainsi, il méprisait toute manipulation de l'image au laboratoire. Emerson pensait que les photographes professionnels étaient trop corrompus par leur intérêt financier pour changer l'état des choses, et c'était donc aux photographes amateurs de rendre à la photographie sa spécificité artistique. L'esthétique élaborée dans ce livre est devenue le point de ralliement de toute une génération de jeunes photographes, dont Alfred Stieglitz, qui n'a cessé de lutter en faveur de cette esthétique, de la pureté et de la spécificité de l'image photographique tout au long de sa vie. Non seulement au Linked Ring à Londres, mais surtout dans le groupe Photo Secession qu'il a fondé au début du siècle. On pourrait facilement mettre dans la lignée d'Emerson les photographes tels que Frederick Evans ou Edward Steichen, Paul Strand, Edward Weston, Elliot Porter, Ansel Adams, même Henri Cartier-Bresson, Brassai et André Kertész. On pourrait y ajouter aussi Eugène Hatche qui, sans connaître Emerson, est arrivé par instinct au même résultat. Mais je quitte le théoricien maintenant pour retrouver Zola, laissant de côté les raisons pour lesquelles on a oublié Emerson. Je voudrais donc essayer de voir la place des photos d'Émile Zola dans le contexte de cette esthétique naissante. Je m'empresse de vous dire que je n'ai aucune raison de croire que Zola connaissait l'œuvre d'Emerson, ni d'ailleurs qu'il était conscient du débat sur la valeur artistique de la photographie qui se livrait pendant les années 90. Il ne dit rien des expositions de photos à Paris ou ailleurs. Il n'appartient à aucune association de photographes professionnels ni amateurs. Et on ne trouve aucune trace d'une correspondance soutenue au sujet de la photographie. Voilà ce qui aide à expliquer peut-être la disparition des photos de Zola après sa mort. En fait, nous avons très peu de renseignements sur l'activité photographique de Zola, surtout de la part du naturaliste lui-même. Après avoir vu l'exposition à Toulouse, j'ai trouvé l'excellent livre de Massin et de François-Émile Zola, publié plusieurs années auparavant. J'étais surpris de trouver que Zola avait si peu parlé de la photographie. Alors ses auteurs étaient obligés de faire un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Il cite des passages de textes littéraires ou théoriques qui parlent de la lumière, de l'observation ou d'une vision documentaire pour conclure que les photos de Zola sont une extension de sa méthode naturaliste en littérature. Jean Adhémar nous dit que déjà en 1864, Zola avait comparé son écriture à la photographie, une reproduction qui est exacte, franche et naïve. Mais une telle analogie ne veut pas dire que 25 ans plus tard, Zola adopte la photographie comme activité naturaliste. Par contre, Adhémar montre très bien qu'à la fin de sa carrière, Zola se servait de la photographie, les images de l'exposition universelle et une série de photos du parc Monceau pour remplacer en partie ses notes documentaires pour le roman Justice. Les biographes n'en disent pratiquement rien, même Armand Lanoux, qui pourtant semblait vouloir dégager le côté intime dans la vie de Zola, n'y consacre que ces quelques phrases. Derrière, l'époque file. L'époque que Zola, nadar amateur, photographie sans relâche, car depuis Royan, il se passionne pour la chambre noire, il fait ses bains lui-même et développe. Fin de citation. Les quelques références que l'on trouve ici et là dans la correspondance de l'auteur ou dans les entretiens constatent une énergie énorme consacrée à la photographie, mais c'est toujours un constat sans élaboration. Nous savons que Zola s'était équipé de nombreux appareils photographiques, qu'il avait aménagé 3 laboratoires dans ses résidences variées, qu'il avait pris des milliers de clichés en moins de 15 ans. Comment s'expliquer qu'il en a si peu dit ? Après tout, Zola avait été critique d'art, défenseur de l'avant-garde, avant-garde qui, d'ailleurs, s'était bien servi de la photographie. Il a tant écrit sur d'autres activités extralittéraires que je me suis étonné de trouver si peu sur la photographie. À aucun moment, la question de la valeur artistique ne semble se poser. C'était une invocation, une activité personnelle, enfin, tout à fait d'accord avec ce que disait Alain Buzyn tout à l'heure, activité même intime, fortement liée à sa vie de famille. Il y a énormément de photos de Denise, de Jacques et de Jeanne Rosereau, photos souvenirs donc de sa petite famille qu'il ne pouvait voir autant qu'il aurait voulu. Je cite Jean Dieuzède, ces tranches de vie pleines de tendresse l'aident sans doute à mieux surmonter cette séparation forcée. Mais il y a aussi des photos des maisons et les environs, des photos d'amis, des photos de voyage. En somme, Zola serait l'avant-coureur de l'art moyen de la bourgeoisie, documentaliste de l'album de famille. Je vois d'ailleurs très mal comment les photos de Zola auraient pu servir d'illustration pour ses romans, surtout les grands romans naturalistes de la série des Rougon-Macquart, comme certains ont voulu croire. C'est à peine si elles auraient pu servir de documents de recherche. Le sujet et le ton sont loin du naturalisme littéraire. Et pourtant, il y a bien une réflexion esthétique dans ces images. Les poses, l'encadrement, les accessoires, l'arrière-fond, les effets de lumière, les réglages, la mise au point, qui semblent aller au-delà des soucis purement documentaires. On peut lui attribuer toutes sortes de motivations. Zola reste muet. Nous n'avons que ces images. Le plaisir qu'il y prenait sans penser faire de l'art, ou le fait que ces photos ne correspondent pas à son esthétique naturaliste ne suffisent pas pour rejeter son travail photographique au plan anecdotique. La valeur esthétique d'une image ne se réduit pas à son seul contenu. Il faudrait chercher aussi du côté de la technique. Il me semble juste de regarder les photos de Zola à la lumière du débat qui se livrait alors au sujet de la valeur artistique de l'image photographique, surtout de la photographie amateur. J'ai donc choisi de vous montrer 8 images, portraits, paysages, nature morte, qui sont, à mon avis, parmi les meilleures de Zola. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Je ne pense pas à tricher en choisissant les meilleures, dans la mesure où Zola n'a pas eu le loisir lui-même de sélectionner ses meilleurs clichés pour une exposition, comme ferait n'importe quel photographe. Donc voilà les photos que je vous invite à regarder avec moi du point de vue de la composition, de la gamme des valeurs, de la mise au point. Et je ne sais pas, c'est là depuis longtemps ça. Pour revenir, c'était pas. Ah oui, mais il y a une photo qui manque là. Je voulais commencer. Avec la photo. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Bon, mais voilà un premier portrait. Je saute un petit peu, peut-être je retrouverai à la fin. C'est un portrait ici qui floue à l'extrême. Donc je rappelle un peu les principes de Emerson ici, plus esthétique. Photo floue à l'extrême, au risque de détruire justement la structure de l'arrière-plan et même le corps de la fille. L'image fuit avec la fille vers la droite, mais elle est retenue par la masse claire du chemin qui monte à gauche, diamétralement opposée à la main droite de la fille, point avancé de la fuite. L'effet de lumière sur sa robe reproduit la texture du chemin et les contours de la fille fondent dans l'arrière-plan. C'est encore le visage qui retient l'attention, surtout le sourire et les yeux qui expriment une énorme bonté enfantin. Le visage est tourné vers le photographe. Le regard seul sort des lignes de mouvement à droite et à gauche. Alors, on pourrait faire une mise au point un peu de cette photo. C'est un problème puisqu'il y a du flou dans ces photos, justement. Alors voilà, ce sont des bateaux de pêcheurs au port du Havre. On y voit un fouillis de paniers qu'on ne voit pas, ce n'est pas très très clair ici, mais on a l'impression en bas à droite, ce sont des paniers pleins de moules. Ça ne se voit pas très très bien. Et trois personnages, dont deux courbés au travail, le troisième debout, qui semble sourire. Il y a un net contraste entre le premier plan et l'arrière-plan qui est marqué par la ligne horizontale du quai. Au-dessus, c'est rectiligne, un mouvement en hauteur. Et en dessous, c'est l'eau, les reflets troubles et les lignes courbes et horizontales des bateaux. Les reflets sur l'eau et les nuages se voient mieux sur un papier à haut contraste tels que les tirages pour l'exposition en 1986 du CEITA, ici à Paris. Je reviendrai à cette question tout à l'heure. Mais la mise au point commence à se perdre au dernier bateau.
Est-ce qu'on peut refaire le point, s'il vous plaît? Parce que la diapositive se dilate, c'est normal, mais il faut refaire le point. Merci.
Ouais, voilà. Ah, voilà, c'est meilleur, oui. Alors la mise au point, justement, commence à se perdre au dernier bateau, donc mise en valeur des bateaux et des pêcheurs séparés de la ville. Je passe encore. Oh, comment est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai mis en mauvais ordre ici ces photos, mais voici donc une nature morte plutôt qu'un paysage, sans doute. C'est peut-être l'expression anglaise « still life » qui conviendrait le mieux ici. C'est une de mes photos préférées, surtout à cause des formes et des tons, mais aussi parce que j'y vois un jeu métonymique entre contenant et contenu ici. On pourrait mettre au point peut-être un petit peu plus cette photo aussi. Le cercle domine les bidons cylindriques, les couvercles, les roues. Et il y a un jeu de lumière qui blanchit les couvercles et suggère le lait à l'intérieur. Le laitier est absent, les chevaux sont absents. Au centre de l'image, sur le grand bidon, on distingue les mots « French » et « Gypsy » et « Dairy ». C'est dans une rue à Londres. On entrevoit aussi des ombres de passants sur le trottoir courbe et un cheval qui arrive de loin. C'est une nature morte urbaine. La riche gamme des valeurs donne une grande chaleur à cette image. Alors, je m'excuse, cette photo, j'ai fait à partir d'un livre, donc sur une double page. Cette photo, donc, c'est la cour du Havre à la gare Saint-Lazare. C'est un paysage entièrement urbain, c'est-à-dire sans horizon. Il y a un fort jeu entre l'intérieur et l'extérieur. Ici, la lumière est diffuse. Il n'y a pas de fort contraste et il n'y a aucun point fixe. On part, on arrive de tous côtés. C'est une photo peut-être confuse, mais qui rend assez bien l'activité de la gare. S'il y a un problème dans cette photographie, cela vient plutôt de l'angle de l'objectif. Le photographe a dû pencher légèrement son appareil pour faire l'encadrement voulu. Ainsi, on voit un effet de parallaxe sur les lignes verticales. C'est une photo intéressante qui préfigure des clichés d'un adjet ou d'un douaneau, à mon avis, mais pas une des plus réussies du point de vue technique. Alors là, oui. On mise au point. Enfin, donc voilà trois clichés de l'exposition universelle, tous les trois qui concernent la Tour Eiffel. Le premier du pavillon des mines et de la métallurgie, encadré par deux pieds de la tour. Petite pointe d'humour, comme ce clin d'œil en haut à gauche, avec les mots palais de costume, distingués en haut à gauche. Tandis qu'en premier plan, justement, nous voyons des spectateurs habillés en costumes sombres. L'encadrement insolite du pavillon est presque trop recherché, cela distrait. C'est une belle photo reportage qu'on verrait bien dans une magazine ou bien une carte postale. Les personnages sont intéressants. L'homme à droite, en premier plan, semble regarder à travers des lunettes vers la droite. L'homme à gauche attire le regard de son voisin vers le milieu en haut de l'image. L'ouverture courbe du pavillon est doublée par celle de la tour. Les lignes de la tour en dentelle sont reproduites par les déambulations divergentes des passants. C'est un jeu du regard, à mon sens, ici. Et encore plus avec celle-ci, qui est donc une vue plongeante sur le palais de l'électricité, prise à travers la tour Eiffel, bien sûr. Encore un encadrement insolite, cette fois-ci, à travers un triangle. À gauche dans le triangle, les gens qui montent et descendent le chemin vers le palais. Les lignes droites de la tour forment un net contraste avec les lignes courbes du palais. C'est ce qui est mis en valeur, mais ce qui est mis en valeur ici, ce n'est pas autant ce qui est encadré, mais plutôt le cadre lui-même, c'est-à-dire le triangle de la tour. Et par extension, le hors-cadre est la transparence, ce qui revient à la problématique du regard, à mon sens. Et je dirais même que Zola commence à dépasser un peu les règles élaborées par Emerson, et surtout avec la photo suivante, plus célèbre que... connaissez. Si vous avez vu cette image hier à l'exposition des photos à côté, vous verrez qu'elle est assez différente. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Donc, cette incroyable réussite technique de composition. Évidemment, ce qui ressort tout de suite, c'est la lumière. C'est une célébration de la lumière. La lumière qui monte et qui allège la tour, puisqu'on ne voit pas la tour même. On ne voit pas la tour, on la devine, et puis elle est tronquée au-dessus du deuxième étage. Par terre, au niveau de la foule, la lumière est éblouissante. À droite, la marée humaine, perceptible seulement par le reflet de lumière sur les chapeaux, qui s'avance à travers le pont d'Iéna vers cette lumière éblouissante. Il y a une très grande profondeur de champ qui s'étend tout au long du champ de Mars pour arriver au palais de l'électricité, à l'horizon encadré donc par la tour. Il y a trois lignes bien développées, la ligne verticale en hauteur, la ligne horizontale de droite à gauche bien établie par les lumières au milieu, et la ligne en profondeur qui traverse le pont d'Iéna pour aller vers le palais de l'électricité. Mais ce qui m'attire l'attention, est-ce qu'on pourrait faire une mise au point un peu plus nette, puisque vous ne verrez pas ce qui m'a attiré l'attention. C'est un peu difficile à voir. C'est tout en bas à gauche, on va dire ce qui me pointe pour parler comme Barthes. Ce sont les quelques personnages isolés en bas à gauche sur le quai de Branly, du moins je pense le quai de Branly. Qui trouve une espèce de répit de la masse, de la suractivité du dessous. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ces personnages, mais sur une photo, enfin un photo-tirage, on voit assez bien, enfin Josette, d'ailleurs, à sa première rencontre, on voit ces personnages très clairement, enfin très nets, qui sont ici en bas, très différents du reste de la photo. Donc, ce qui donne toute une autre dimension à cette photo aussi, je pense. Alors, je voudrais peut-être voir si... Ah non, je n'ai pas... Il y a une photo qui manque, je m'excuse. Pour conclure, donc, et pour avoir le cœur net, je dois quand même revenir sur un problème méthodologique. J'ai évoqué brièvement, enfin, vous avez pu faire vos appréciations vous-même ici, mais cette photo, par exemple, ça va servir d'exemple ici. Le problème est que je travaille à partir d'un tirage de Jean Diozède. D'ailleurs, la majorité de ces photos que j'ai montrées sont des diapositives faites à partir des tirages de Jean Diozède pour l'exposition qu'il a faite à Toulouse. Et si vous regardez cette même photo dans l'album Zola Photographe, vous verrez qu'elle est assez différente. Là, elle est beaucoup plus claire, et encore plus claire dans l'exposition à côté. Ce n'est pas pour critiquer d'autres tirages que je dis cela, mais pour dire que nous sommes obligés de travailler à partir de tirages récents pour la grande majorité des photos de Zola. C'est un problème épineux. Vous savez que les grands musées de photographie aux États-Unis, par exemple, n'étaient pas du tout intéressés par l'exposition qui tournait là-bas, puisque ce n'étaient pas des tirages originaux. Alors, mais le problème, c'est que nous avons très très peu de photos d'Émile Zola, enfin de photos qu'il a tirées lui-même. Nous avons surtout plaques et négatifs. Donc, mais on peut voir, si on compare par exemple le tirage de Jean Dieuzet avec d'autres ici, et il y a, avec d'autres photographies aussi, qu'il y a des différences d'appréciation. Donc, ce n'est pas seulement Zola dans ces images qu'on voit, mais c'est le travail aussi de quelqu'un d'autre. Enfin, Zola s'est beaucoup investi dans la photographie à la fin de sa vie. Et même s'il ne parlait pas de son violon d'Ingres comme d'une activité artistique, nous avons pu constater qu'il y est arrivé par instinct à créer des photos qui égalent, à mon avis, certains des meilleurs images de son époque. La grande majorité de ces photos ne sortent pas de l'anecdotique, très intéressante pour les chercheurs, pour ceux qui s'intéressent à Zola, à son époque, à l'histoire de la photographie. Mais je vais terminer avec une phrase. Donc, George Bernard Shaw, qui lui aussi est écrivain et photographe amateur, a dit, je traduis la phrase, « Le photographe est comme une morue qui produit un million d'œufs, pour qu'un seul arrive à la maturité. » Alors Zola, à mon avis, en a pondu assez de bonnes photographies pour prendre sa place comme photographe à part entière dans l'histoire de la photographie. Et voilà, je m'excuse de la photo qui manquait là de Jeanne, justement. Merci.
Bien, merci beaucoup à John Lambeth. Nous pourrions peut-être avoir quelques échanges de vues et des questions adressées aux deux orateurs. Henri Mitran, vous avez la parole.
Qui est de nature, je disons, philologique, si je puis dire, mais appliqué à l'image. Le cri d'alarme est le suivant. Il existe effectivement plusieurs centaines, plusieurs milliers de clichés, enfin de plaques, de négatifs de la collection de photographies faites par Zola, mais tout ça est en danger, dans une certaine mesure, hein, pour des raisons qui tiennent à des questions de succession. Qui tiennent aussi au fait qu'il y a quelques années, lorsque le docteur François-Émile Zola a exploré la collection de son grand-père, lui-même n'était ni un historien des documents, ni un spécialiste, ni un technicien. Enfin bref, pour toutes sortes de raisons, ces plaques, ces négatifs sont conservés dans des conditions qui ne sont pas du tout satisfaisantes pour leur conservation. Alors je me demande si nous ne devrions pas ici, d'une façon ou de l'autre, poser le problème de manière un petit peu plus publique. Il y a là un trésor qui, pour des raisons, encore une fois, qui échappent à la volonté de chacun, est dans une certaine mesure en danger. Hein. Le docteur Zola, d'ailleurs, en avait parfaitement conscience il y a quelques années. Je fais qu'évoquer cette question. Nous avons les tirages faits par Dieuzet, nous avons les tirages faits par les soins du docteur Zola lui-même, nous avons des tirages anciens, il y en a quand même quelques-uns. Mais la masse des documents est sur plaque et on voit bien comment certaines de ces plaques sont en train de se décoller. Enfin, il y a la petite pellicule qui est très fragile. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire, mais c'est probablement l'occasion aujourd'hui de dire alarme, danger, il y a là un trésor qui n'est pas dans les plus parfaites conditions de conservation, et je crois que c'est vraiment dramatique compte tenu de tout ce qui a déjà été dit ce matin sur l'intérêt de ces photographies. Puis la deuxième question que je voulais vous poser, elle est de nature, disons, un peu plus philologique. Quels sont les moyens dont nous disposons pour identifier en toute certitude, dans la masse de documents photographiques qui sont conservés dans les archives zoliennes, pour identifier en toute certitude les photos qui sont effectivement des photos d'Émile Zola? Tout à l'heure, vous nous avez montré 8 photographies. Je ne suis pas absolument sûr que les 2 premières soient de Zola. Elles figurent, je crois, dans le catalogue, pas dans le catalogue, mais dans l'ouvrage dont Massin et le docteur Zola étaient l'auteur. Je crois qu'elles figurent même dans l'exposition Dieu aide. Moi, j'ai des doutes, en particulier sur la photo du port. J'aimerais qu'on puisse nous démontrer que cette photo est une photo de Zola. Il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de documents sur lesquels nous n'avons aucun doute. Quand c'est une photo de Denise ou de Jacques ou des photos d'amis dans le parc de Médan, on peut penser que ce sont des photos faites par Zola. Mais il y a d'autres documents, y compris des photos d'Italie, dont il n'est pas absolument certain qu'elles soient de Zola. Mais aller prouver qu'elles ne le sont pas, ça, c'est une autre paire de manches. Aller prouver qu'elles le sont, c'est sans doute difficile. En tout cas, il y a un travail de critique à faire, qui est de nature historique, qui est de nature philologique, je dirais, pour savoir de qui est le texte. Quand on a affaire au texte, les techniques sont là pour nous aider. Nous savons très bien ce qui est de Zola et ce qui ne l'est pas. Il y a l'écriture, il y a les manuscrits. Dans le domaine des photos, l'identification est beaucoup plus difficile. On ne pourra pas faire un travail tout à fait sérieux sur la, enfin, du point de vue de l'interprétation, sur les collections photographiques de Zola, aussi longtemps que, un, l'inventaire n'aura pas été fait, et avec des moyens absolument scientifiques, comme ceux qu'on utilise en histoire littéraire, et que, deux, le travail de critique interne et d'identification n'aura pas été fait non plus. Alors, ce n'est pas un cri d'alarme, ça, c'est un appel aux chercheurs pour qu'ils adoptent face aux photos les mêmes critères de travail que ceux qui ont été adoptés face aux textes dans le passé. Voilà ce que je voulais dire.
Bien, merci. Une question là-bas au fond de la salle.
Et je voudrais répondre très très brièvement à Henri. Je voudrais m'excuser de répondre à la place des orateurs, mais le travail à propos de la photo du port a été fait par Françoise Elbrun et Philippe Néagu, conservateur du département photographique du musée d'Orsay. Et il est à peu près certain que c'est une photo de Le Grès. Que celle-là est pas en effet une photo de Zola. Bon, j'ai rencontré Philippe Néagu et Françoise Elbrun. Bon, vraiment, ils l'identifient de façon à peu près certaine pour des raisons à la fois d'ordre de technique, du matériau photographique et d'autre part pour des raisons, disons, stylistiques, comme une photo qui n'est pas une photo de Zola.
Je voudrais répondre tout d'abord à Henri Mitran pour confirmer son appel en ce qui concerne la conservation des photos. Je suis particulièrement concernée puisque je suis la fille de François-Émile Zola et que je tiens à préciser que tous les documents photographiques sont actuellement effectivement en vrac dans des cartons, dans des malles. Je voudrais préciser aussi que les problèmes de succession auxquels Henri Mitran a fait allusion ne sont pas de mon fait. Je désire absolument, depuis plus d'un an et demi que mon père a disparu, je désire que cela soit solutionné au plus tôt. Et je tiens à dire que je ne suis pour rien dans la lenteur de ce processus. D'autre part, il faudrait. Cette succession va donc partager l'héritage à la fois photographique et littéraire d'Émile Zola. Et en ce qui concerne les photographies, la veuve de mon père a décidé de choisir toutes les photos dans sa quote-part. Donc c'est à elle qu'il faudra vous adresser pour motiver, susciter des travaux, des demandes, des aides de pour les travaux qui seront entrepris sur les photos. Et malheureusement, en ce qui me concerne, je ne puis rien faire. Bon, j'arrêterai là, je ne veux pas entrer d'une façon plus précise dans les détails qui sont familiaux. Dans un deuxième temps, je voulais répondre à la dernière allocution. Je me permets d'abord de vous dire que vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. que vous abordez la photozolienne d'une façon tout à fait intéressante. J'ai été frappée au début de votre intervention par le plaisir que vous dites avoir ressenti à l'occasion de l'exposition toulousaine de Jean Dieuzède. Alors, il se trouve que j'habite Toulouse et je puis vous dire que vous avez eu la chance de découvrir Zola photographe lors d'une des plus belles expositions réalisées depuis une dizaine d'années. Jean Dieuzède, que je connais bien, puisque je vais à chacune de ses inaugurations de photos à Toulouse, et que j'ai eu la chance de le connaître justement lors de cette exposition, donc cela fait maintenant près de 9 ans que je le connais, Jean Dieuzède a choisi une centaine de photos parmi les quelques 3000 plaques qui se trouvaient conservées par la famille, et que cette préparation a été le fruit d'un long travail, de plusieurs mois de tirage et de sélection. Le choix de chaque photo a été le fruit d'une longue contemplation, de centaines de clichés. On peut presque dire que chaque photo a résulté d'un coup de cœur de Dieuzède. Et cette exposition était vraiment un plaisir de l'esthétique. Par ailleurs, vous déplorez qu'on ne sache rien de ce que Zola pensait de ces photos. Eh bien, cet après-midi, je prononce une petite allocution où je citerai notamment dans cette allocution des extraits de sa correspondance d'exil, sa correspondance avec Jeanne, où l'on découvre une facette nouvelle du Zola photographe que je citerai les paroles de Zola lui-même dans cette correspondance à Jeanne, et vous verrez que dans chaque lettre pratiquement il part de la photo et que cet art naissant était devenu vraiment le viandingre de sa vie et qu'il ne se passait pas de journée pratiquement sans qu'il prenne une photo. D'autre part, vous pensez que on ne peut pas dire que les photographies avaient pu servir à l'équivalent des notes de travail avant un ouvrage. Or, mon grand-père, le docteur Jacques-Émile Zola, le fils donc d'Émile Zola, m'a souvent raconté lors de mon enfance ou de mon adolescence qu'il était persuadé, quant à lui, que son père s'était servi de photos. Il me disait, ton arrière-grand-père préparait longuement ses romans. Il prenait des notes. Pour Germinal, il est descendu dans la mine. Il a parlé avec les mineurs. Il a visité les corons. Eh bien, me disait-il, je suis persuadé qu'à la fin de sa vie, les photos faisaient également partie de sa documentation. Ça, c'était donc l'impression du fils de Zola. Alors, vous parlez de photos, notes documentaires, désir aussi de garder le souvenir. Zola, ça c'est formel dans toute sa correspondance, Zola programmait ses albums, il les pensait à l'avance. Enfin, je ne veux pas vous en dire plus, puisque ça va être le sujet de mon allocution cet après-midi. En tout cas, album de famille, certainement. D'autant que mon grand-père, Jacques Zola, qui a vécu avec sa mère, Jeanne Rosereau, jusqu'en 1914, m'évoquait avec moi les longues soirées d'hiver où sa mère refeuilletait avec lui les albums. Et elle est décédée en 1914. Donc mon grand-père a eu l'occasion d'affiner, si je puis dire, son appréciation quant à l'ouvrage photographique de son père. Et les albums de photos étaient construits par Zola à l'avance. Il les préparait soigneusement, il tenait à les faire lui-même, il faisait ses collages lui-même. Muet sur la photo, non, je vais vous le dire cet après-midi. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Merci madame. Autre question sur la question de fond, le naturalisme du romancier et le... Pour l'interrogation naturalisme ou pas du photographe.
David Bégulet.
Oui, j'ai très rapidement une petite question, ou plutôt une précision pour M. Buisine. J'étais très intéressé par la relation que vous avez établie entre l'activité photographique et, disons, le thème de la fécondité, la prolifération dans l'œuvre. Je me demande s'il n'y a pas, pour prendre l'exemple de fécondité, s'il n'y a pas une petite contradiction entre, d'une part, le cas, disons, Zola, Mathieu, là où il y a une équivalence entre la prolifération de la photographie et la prolifération de la famille, et d'autre part, le cas Morange, où, si vous voulez, la photographie est une sorte de compensation, n'est-ce pas, pour l'infécondité. De sorte que, est-ce qu'on pourrait dire que chez Zola lui-même, il n'y a pas un aspect, disons, petit peu, disons, tragique dans la photographie, dans la mesure où la photographie est condamnée à perpétuer, à répéter toujours le même, là où dans le discours, cette prolifération est beaucoup plus créatrice, si vous voulez. Hein. Je ne sais pas.
C'est-à-dire, dans le cas de Mathieu Morange, je les voyais comme les deux revers de la même problématique, en fait. Hein, que dans un cas, on soit au niveau de la prolifération familiale, ou dans l'autre cas, c'est la photo qui représente la compensation de cette impossible prolifération familiale, j'estimais que c'était à peu près la même chose. Comme ça que je l'ai lu tout au moins. La deuxième partie, la dimension tragique, je ne vois pas très bien. Pourquoi la photographie toujours condamnée à photographier elle-même par rapport à fécondité, là, je ne vois pas.
Pas par rapport à la fécondité réelle, hein, qui est représentée dans le roman, là où vous avez une prolifération créatrice. Oui. Ce sont toujours les mêmes personnages, les mêmes personnes.
Non, je ne vois rien de tragique là, dans le cas de Zola et la photographie. Alors là, mais nullement, qu'une dimension. Heureusement, de toute façon, que ça ne se passe pas dans le réel comme dans Fécondité. Hein, parce que faire la photo, pour le coup.
Monsieur.
Je me demande si, évidemment, l'acte de photographier n'a rien de tragique en lui-même, peut-être. Mais les images que Zola donne de sa famille et de ses enfants, Monsieur Decaux l'a remarqué... au cours de son allocution l'an dernier, ne sont pas... C'est M. Decaux, oui. Ne sont pas celles, à mon avis, qu'un père, fier de sa progéniture, content du bonheur familial, voudrait nécessairement collectionner. Je ne veux pas faire de sentimentalisme, mais il y a comme une vision... à mon avis, très lourde de l'existence dans ses visages. Et il y a un choix, comme l'arrière-petite-fille de Zola nous l'a montré, qui, je crois, va au-delà simplement de l'action de photographier, du désir de reproduire que vous signalez. Je veux dire, une vision intérieure à l'image ajoute quand même quelque chose d'autre. Je vais un peu dans le sens de Bagulay, si je crois, enfin, peut-être que j'ai mal compris sa question. Mais je crois qu'il faut aussi regarder la photo elle-même en tant qu'image et pas seulement le mécanisme photographique dans un sens.
Mais je comprends très bien l'avantage de l'héroïsation et de la dramatisation de la chose et le poids de la tragédie, la lourdeur intérieure de la photographie, etc. Bon, ça, j'imagine bien. Je crains quand même qu'il faille rappeler que les photographies de Zola à la date ne sont quand même pas uniques, hein, vraiment ne sont pas uniques. Et qu'il faut d'abord s'interroger pour savoir pourquoi quelqu'un qui est d'abord un écrivain, c'est quand même une extrême banalité, passe sur un support aussi différent. C'est ça ma question. Mais dire toujours qu'on retrouvera dans ces photos un plus, parce que le plus vous l'investissez, parce que c'est le cas Zola, hein, vous n'avez aucune... Je vous défie de voir ce point intérieur dans ces photos. Alors là, vraiment, je me demande sur quel argumentaire, sur quelle logique de vision, sur quelle optique vous pouvez démontrer ça. Je crois que c'est une dramatisation un peu inutile, une héroïsation de ces photos. Elles ne sont pas pour Zola, j'ai essayé d'y insister trop vite parce que j'ai beaucoup écourté mon texte, mais elles ne sont pas dans l'ordre du dramatique pour Zola. Je crois justement c'est le contraire. La photographie zolienne n'est pas une activité dramatisante, c'est une activité pacifiante, fantasmatiquement. Alors je ne crois pas qu'il y ait un poids comme ça, justement pas dans ces photos. Mais c'est une lecture, hein. Ça n'est qu'une lecture parmi d'autres.
D'autres interventions sur ce point, sur ces questions à poser aux orateurs. Pas de questions. Moi, je voudrais dire quelque chose, alors, parce qu'au fond, j'ai un privilège ici, c'est que je ne connais pas très bien Émile Zola, sauf comme lecteur. Par contre, je connais assez bien l'histoire de la photographie. J'ai moi-même écrit un livre sur la photographie. Je préside des institutions dans ce domaine. Et je me suis posé la question suivante. Si on m'avait dit, les photographies qui sont dans ce livre sont d'un monsieur X, on ne sait pas qui c'est, on sait simplement que c'est un tempérament artistique. Où se situent ces photographies dans l'histoire de la photographie? Et à ce moment-là, je crois qu'on peut dire quand même un certain nombre de choses qui, je le dis en toute simplicité, sont quand même assez fortes, et je suis prêt à débattre là-dessus. Premièrement, ce sont des photographies qui, pour leur époque, tournent le dos au courant le plus dominant de l'époque, qui est le courant pictorialiste. Vous savez, le commandant Puyot, la gomme bichromatée, etc., toutes les brumes du symbolisme, Gabriele D'Annunzio, etc. Donc ça n'est pas contemporain au sens des jeunes turcs de son époque, de cette époque-là, de la fin du siècle. En même temps, c'est une photographie qui est donc moderne, par sa simplicité, son côté carré. Et elle est moderne, je dirais, en faisant très attention aux deux branches du modernisme en photographie. Parce que si l'on cite trop de noms en les ajoutant, on se trouble. Il y a la branche la plus moderne au sens de l'art moderne, qui part d'Adjet, qui va vers des photographes américains importants, qui, après Stieglitz et Steichen, développeront un certain nombre de thèmes très forts sur le plan strictement graphique. Et Zola n'est pas de cette famille-là, à mon avis. Zola, par contre, et c'est là où c'est très intéressant, il est de la seconde famille de la modernité photographique, c'est celle du photojournalisme, celle du photoreportage. Ce qui est très frappant pour moi, c'est que les photographies de Zola sont en quelque sorte ce que nous trouverons dans le photojournalisme classique, qui explosera après les années 20 en Allemagne notamment, puis ensuite en Angleterre, à Vienne, en France, c'est-à-dire une photographie du reportage composé, du reportage humanisé, donc dans la lignée de l'humanisme photographique. Et là, c'est tout à fait extraordinaire, parce que cet homme, tout de même, là je parle de M. X, n'est-ce pas, dont on sait que c'est un tempérament artistique, mais on ne sait pas ce qu'il a fait avant de prendre des photos. Ce M. X aurait été, je crois, un bon photographe, voire un très bon photographe, pour certains journaux, extrêmement dans le coup, dans les années 20. Et ça, c'est quand même assez intéressant, me semble-t-il. Voilà une vue de Huron, si je puis dire, sur la question. Madame. On imagine ce qu'aurait pu donner 1914, vu par Zola, photographe. Y a-t-il d'autres questions sur les questions théoriques importantes, notamment vis-à-vis d'Emerson ou... Non, monsieur ? Oui. Ah ben, une question.
Et puis la deuxième observation, enfin le deuxième rapprochement, c'est à propos de de fécondité, les photos qui remplacent les enfants, je crois, après la mort d'une héroïne. Et ça me fait penser à La Chambre verte de François Truffaut, où on voit le même thème développé, me semble-t-il. C'est-à-dire le portrait, la photo qui remplace donc l'existence d'une morte aussi.
Oui, sur le premier point, je dirais qu'effectivement, il y a une dimension aussi cinématographique, hein, c'est absolument incontestable. J'ai simplement pris quelques exemples, et là, il faudrait vraiment le développer beaucoup plus longuement. C'était un peu saboté, fait à toute allure. Montrer, mettons, comment un texte, dans le rêve, l'agencement de la cathédrale, des maisons, etc., va construire toute une série de chambres noires disposées extrêmement, de façon extrêmement savante. Bon, là, ça a été emporté un peu, il faudrait le démontrer plus longuement. Ce qui n'est pas exclusif, d'ailleurs, d'un regard cinématographique, hein, ça, c'est absolument certain. Deuxième point, je dirais oui, c'est une thématique relativement récurrente, que ça lui rapporte à la disparue, à la morte, etc., et sa présence photographique, enfin. Oui, de fait.
Bien, je crois que nous allons donc poursuivre les conférences. Il nous reste environ une heure, un peu plus d'une heure. Et nous allons donc avoir maintenant l'intervention de Monsieur Denis Loher, René Denis Loher, Loller, pardon, Monsieur René-Denis Lollaire, qui va nous parler de l'aspect technique de la photographie chez Zola. Monsieur René-Denis Lollaire est un ancien expert de chez Kodak.